Je me permets donc de vous présenter M. Claude Le Pen, qui est professeur à l'Université de Paris-Dauphine. Il est, depuis 1997, rapporteur du groupe de travail sur l'achèvement du marché unique du médicament en Europe auprès de la Commission européenne. Il est par ailleurs membre du Conseil d'orientation des filières et réseaux de soins. Et vous pouvez retrouver ses publications, dans les publications, notamment son ouvrage, son dernier ouvrage, « Les habits neufs d'Hippocrate », publié chez Kalman Levy en 1999. Il est enfin éditeur d'une lettre mensuelle sur les nouvelles structures des productions de soins qui s'appelle « Filières et réseaux ». Voilà, je vous laisse la parole. Merci.
Merci beaucoup et bienvenue à cette conférence, un peu inhabituelle pour moi. Le cadre, le public, pas le sujet, que je connais quand même un petit peu, et puis la petite boule noire là qui m'embête un petit peu, qui va me suivre partout, mais paraît-il c'est beaucoup mieux pour vous que les technologies traditionnelles, on n'arrête pas le progrès. Alors de quoi va-t-on parler ? On va parler de médicaments. Je suis pas médecin, je ne suis pas pharmacologue, je suis économiste. Et je me suis, depuis une dizaine d'années, intéressé beaucoup aux questions de protection sociale, d'économie de la santé, de sécurité sociale. Et en abordant ces questions, très naturellement, on tombe sur les problèmes économiques posés par ce bien un peu étrange, un peu inconnu. Cet objet qui se situe quelque part entre science, marché, société, protection sociale, qui est le médicament. Et je pense qu'il existe relativement peu de biens de consommation moderne dans la société actuelle qui soient aussi complexes et qui intègrent de manière aussi contradictoire des logiques très différentes. Ça marche ? Oui. Oui. Victoire. Donc, une des caractéristiques, effectivement, du médicament, il y aura peu d'exemples, peut-être les biens culturels, peut-être le livre ou le cinéma, où vous allez à la fois avoir un bien industriel produit par des entreprises privées dans un marché mondial qui se globalise, avoir des caractéristiques scientifiques, des chercheurs biomédicaux qui produisent ces médicaments avec une coordination du privé et du public, avec une très forte préoccupation sécuritaire, un environnement réglementaire extraordinairement fort. On le parcourra en quelques lignes, voir un petit peu à quelles contraintes est soumise la consommation, la mise sur le marché du médicament. Et puis c'est un bien socialisé, c'est un bien de financement collectif. Je paye vos médicaments, vous payez les miens. Et il y a à travers les systèmes de protection sociale une prise en charge solidaire et collective de ce bien. Et c'est un des rares biens médicaux qui obéissent à l'ensemble de ces logiques. Et toutes ces logiques sont parfois en conflit. Les industriels veulent des prix élevés, la sécurité sociale veut des prix bas, et ça crée tout un nœud de questions et d'enjeux qui sont assez passionnants, en tout cas de mon point de vue, à étudier. Le fil rouge un petit peu de mon propos sera de montrer que le médicament n'est pas qu'un bien médical. C'est-à-dire que tout le thème, ce sera autour des implications sociales du médicament, montrer que c'est un des biens du siècle, c'est un une des innovations qui a organisé certainement la deuxième moitié au moins de ce siècle. Ce qui est intéressant, effectivement, c'est qu'au-delà de la médecine, le médicament est un vecteur de rapports sociaux, est un vecteur d'organisation sociale. J'ai pris là quelques exemples, mais je pourrais en prendre d'autres, de médicaments qui ont changé la société, qui ont changé la vie. La pénicilline, bien sûr, arrivée en 1945 à large échelle et qui a vidé les sanatoriums, tels que la pathologie infectieuse est devenue sinon rare, elle a continué à exister, mais qui a complètement bouleversé la manière dont on voyait ce type d'invasion bactérienne. L'insuline, dès le début du siècle, il y a une histoire extraordinaire d'une patiente qui avait 15 ans, née en 1907, qui pesait 20 kilos quand on l'a traitée, qui avait un diabète de type 1 insulinodépendant, dont la mort était programmée à quelques jours. Et puis, un laboratoire américain, qui existe toujours, Lilly, a fourni une ampoule d'insuline animale, d'extraction animale, et cette dame, dame est morte en 81 à l'âge de 75 ans, ayant vécu toute une vie normale, réellement sauvée par cette invention. C'était la première patiente sur laquelle on testait ce genre de choses. Ça a changé aussi, ça a changé la vie. En 50, pas loin d'ici, pas loin de cet amphithéâtre à Paris, on a testé les premiers médicaments du cerveau, le Largacti, la neuroleptique, qui a changé des médicaments, des maladies comme la schizophrénie, dont les patients étaient soit désagités, soit au contraire repliés sur eux-mêmes, dans une espèce de repli catatonique très, très, très impressionnant. Et ce premier médicament produit par Denis Kerr a révolutionné complètement ce monde. Je ne parle pas de la pilule anticonceptionnelle, qui est un peu la matrice des rapports hommes-femmes, et même de la condition féminine, testée en 1956 pour la première fois, et dans un autre contexte que celle des... puisqu'il s'agissait plutôt de maîtriser la natalité dans les pays émergents. Ça a été testé à Puerto Rico pour la première fois. Et puis je passe sur les sels de platine qui ont révolutionné le cancer dans les années 70, l'aspirine que tout le monde connaît, l'AZT, le sida, la cyclosporine qui a rendu possible les greffes. Aucune greffe ne serait possible. On parle beaucoup de l'exploit de la greffe, mais l'exploit de la greffe, c'est avant tout la maîtrise du rejet et l'invention de la cyclosporine et des immunosuppresseurs. Les facteurs de croissance hématopoïétiques, la fameuse érythropoïétine qu'on connaît, mais pour ses usages détournés, et qui en fait change la vie des sujets dialysés et anémiés. La lévodopa dans la maladie de Parkinson, les thrombolytiques qui sauvent. On n'en finirait pas, si vous voulez, de cette liste de produits. C'est plus que des médicaments. C'est encore une fois la vie s'organise un petit peu, les espérances de vie quantitatives et qualitatives autour de ça. Je ne citerai qu'une seule étude, une de mes études en plus, où nous avons suivi une cohorte de patients au moment où on initiait ces fameuses trithérapies. Dans les hôpitaux, et nous avons suivi une cohorte de patients, de 500 patients à l'hôpital Rothschild, avant et après, sur 14 mois, avant et après l'initiation du traitement, et vous avez trois groupes, les groupes des plus graves, qui étaient promis à une mort très très rapide. Ils faisaient près de 50% de la cohorte. Le jour où on initie le traitement, eh bien, ce groupe pratiquement est réduit à 0% de la cohorte. Ce sont des gens dont le taux de CD4, de lymphocyte T4 était très bas, autour de 50. Par contre, ceux qui étaient les mieux, hop, ils sont devenus la majorité. En quelques jours, un nouvel espoir renaît. Et donc là encore, ce sont des phénomènes très forts dont on vit avec, dont on a l'impression qu'ils sont devenus habituels, mais qui caractérisent ce siècle. Et pas un autre. Et même encore, si on regarde, disons, les dates de l'apparition de la pharmacologie, c'est même le demi-siècle. La plupart des inventions pharmacologiques sont concentrées, à quelques exceptions près, sur la période 50-2000, sur le second demi-siècle. Le médicament, d'un autre côté, on a l'impression que ça existe depuis toujours, qu'il y a un savoir immémorial autour du médicament, que l'effet des plantes, l'effet des produits d'extraction animale est utilisé depuis aussi longtemps qu'on arrive à remonter par l'homme pour se soigner, et c'est vrai. Mais précisément, moi je fais la distinction entre le remède et le médicament. Le remède, c'est cet savoir accumulé de plantes, c'est la pharmacopée, ce gros registre de toutes les plantes actives, développé encore une fois depuis très longtemps, et le grand nom c'est évidemment Galien de Pergame, au second siècle après Jésus-Christ, dans la Rome de Marc Aurèle, qui avait établi un catalogue de 500 à 600 plantes dont les vertus vomitives, laxatives ou sudorifères étaient censées rétablir les humeurs du corps perturbées par la maladie. Et ça, il n'y a pas si longtemps, il y a moins de 100 ans, dans les années 1850, en faculté de médecine, on étudiait encore l'œuvre colossale, il y a des milliers de pages, de Galien de Pergame. Et ce n'est qu'après que les choses ont réellement changé, que cette catégorie de médicaments est apparue, un bien de technologie avancée, technologie, un bien dont on connaît le mécanisme d'action. Le remède est magique. Le médicament, on sait comment il agit. On a identifié les récepteurs sur lesquels il se fixe. On connaît les mécanismes régulateurs sur lesquels il agit. On essaye. Aujourd'hui, pour les médicaments modernes, la découverte du mécanisme d'action est presque une des conditions de leur mise sur le marché. Et en tout cas, la communauté scientifique est très vigilante sur ce point. Ce sont des médicaments soumis à des essais. Il ne suffit pas qu'on aille mieux après l'avoir pris. Il faut encore montrer que on va vraiment mieux et que si on avait pris un autre médicament, on irait moins bien. On viendra sur ce point dans un instant. Et il y a des contraintes légales très fortes. Un point commun, c'est l'effet placebo. Un mot sur l'effet placebo, pour en dire simplement trois choses. Premièrement, c'est tout médicament a un effet placebo, un effet de suggestion qui fait que par la vertu de la psychologie, on va mieux. Dès qu'on a le sentiment d'avoir administré quelque chose qui est censé vous faire aller mieux. C'est-à-dire que c'est une prédiction autoréalisatrice, je dois aller mieux, donc je vais mieux. Mais ce n'est pas, comme on le dit souvent, un effet purement psychologique. On connaît le mécanisme d'action du placebo. Il y a une réalité physiologique dans l'effet placebo. Il y a effectivement, et on commence à l'étudier, on le connaît bien, on commence à le connaître, un certain nombre de récepteurs qui sont activés par des substances produites par le corps. En plus, l'effet placebo n'oppose pas les médicaments inoffensifs ou gentils ou inefficaces aux médicaments actifs, avec un effet réel entre biologique, pharmacologique, entre guillemets. En fait, tout médicament a un effet placebo. Et même les médicaments les plus sophistiqués, avec les mécanismes d'action les plus compliqués, ont aussi un effet placebo. Et l'effet placebo participe pleinement de l'effet thérapeutique et de la relation thérapeutique. Et enfin, l'effet placebo est intéressant parce qu'il représente, d'un certain point de vue, la manière dont le corps apprivoise une molécule, un corps chimique étranger, et la réaction du corps et de l'esprit et de la psychologie produit par interaction, en quelque sorte, entre cette molécule chimique simulée en trois dimensions sur un écran d'ordinateur, synthétisée après dans des éprouvettes, compressée dans des presses et consommée par le patient. Eh bien, l'effet placebo, c'est la réaction, l'intégration, la domestication de cette molécule chimique et il en résulte un effet complexe à la fois psychologique, physique, physiologique qui est l'effet qui agit sur la maladie. C'est pour ça que tous ceux qui s'intéressent aux médicaments sont un petit peu fascinés et ne peuvent pas ne pas prêter une très grande attention à cet effet placebo sur lequel on reviendra dans un instant. Une grande différence entre le remède et le médicament, c'est que le médicament, avant d'être une catégorie médicale, est une catégorie juridique. Un médicament, il y a une définition légale du médicament, et il y en a même plusieurs. Et l'article L511 du Code de la santé publique donne une définition, on entend par médicament, je la lis avec vous, toute substance ou composition présentée comme possédant des propriétés curatives ou préventives à l'égard des maladies humaines ou animales, ainsi que tout produit pouvant être administré à l'homme ou à l'animal en vue d'établir un diagnostic médical ou de restaurer, corriger ou modifier leur fonction organique. C'est une définition assez complexe et en fait, les juristes, à l'analyse de ces textes, ont dégagé trois sens. Trois sous-définitions, dont certaines sont intéressantes pour notre propos qui est le médicament comme phénomène social. C'est d'abord la plus simple, mais ça, on ne va pas s'y attarder, le médicament par destination, c'est-à-dire que les médicaments, ce qui soigne, ce qui prévient, ce qui modifie les fonctions biologiques du corps. Et médicaments aussi, là non plus, on ne s'y attardera pas, la définition par composition, et médicaments, ce qui est composé de médicaments. C'est-à-dire que l'adjonction de médicaments fait des médicaments, et c'était assez important, notamment au début du siècle ou dans les années 50, quand on se référait à la pharmacopée et qu'un médicament était défini par ses ingrédients. On verra que ça a changé. Et puis ce qui est intéressant, peut-être plus intéressant, c'est la définition par présentation. La définition par présentation dit que tout bien qui se présente comme un médicament est un médicament. Bien qui a une allégation, nous appelons ça une allégation d'effet est considéré comme un médicament, et la jurisprudence européenne précise que chaque fois qu'il apparaît de manière implicite, mais certaine, aux yeux d'un consommateur moyennement averti, que le produit devrait avoir un effet biologique, tel qu'il le revendique, alors il devient médicament. C'est-à-dire que si vous prenez des petites pilules, vous mettez du sucre dedans, mais elles ont l'apparence d'un médicament, et un consommateur moyennement averti peut les confondre avec un médicament, alors c'est un médicament. C'est-à-dire que la définition du médicament ne fait pas nécessairement référence à son efficacité, mais à sa présentation. Si vous faites de la publicité en disant « je vais vous guérir » pour un produit, ça deviendra un médicament. Pourquoi ? La raison est évidente, c'est une raison de protection du consommateur. C'est-à-dire que si vous êtes un médicament, on n'est pas médicament impunément, en quelque sorte, et si vous êtes médicament, eh bien, il y a deux conséquences immédiates pour votre produit. Le premier, c'est que vous devez demander une autorisation de mise sur le marché, c'est-à-dire que la commercialisation n'est pas libre, vous devez être autorisé, et cette autorisation est donnée en France par une agence spécialisée qui s'appelle l'Agence française pour la sécurité sanitaire des produits de santé, ce qui est un sigle un peu barbare, AFSAPS, pour les initiés. Et la seconde conséquence, c'est que dès lors que vous êtes médicament, eh bien, vous tombez sous le monopole du pharmacien, c'est-à-dire qu'aucun médicament ne peut être vendu en gros ou en détail ou au détail par quelqu'un d'autre qu'un pharmacien de profession. Donc vous tombez dans ce qu'on appelle le domaine du monopole pharmaceutique. Et donc ces deux conséquences sont d'ailleurs autant de lieux d'affrontement et la jurisprudence est très abondante sur le point de savoir si telle vitamine C ou telle léosine aqueuse, l'alcool à 70 degrés, l'eau oxygénée sont ou pas des médicaments, avec un enjeu très, très pratique. Ai-je le droit de le vendre, de l'acheter ailleurs que dans une pharmacie ou pas? Et bien sûr, il y a des intérêts commerciaux très très important autour de cette question qui revient de manière récurrente, et il y a des arrêts de jurisprudence de manière permanente au niveau national, au niveau européen, depuis qu'il y a un droit européen du médicament, d'ailleurs largement d'inspiration française, autour de cette question de la définition légale du médicament. Avec quelques affaires célèbres, notamment la vitamine C, qui ont fait couler un petit peu d'encre. Point essentiel pour le médicament, c'est une procédure du point de vue économique, là aussi on y reviendra, c'est le fait d'être soumis à ce que je disais il y a un instant, la procédure d'enregistrement, d'autorisation de mise sur le marché. En deux mots, mais il faut savoir que tout médicament que vous prenez et que vous avez peut-être dans votre poche, tout médicament est nécessairement passé à travers ce circuit compliqué, médicaux, réglementaires, techniques, qui l'amène d'une autorisation de mise sur le marché à la pharmacie. Et il doit passer par une commission qui l'autorise au vu de la sécurité, de l'efficacité, au vu aussi de sa qualité pharmaceutique, des puretés, du taux d'impureté dans le produit. Il doit passer devant une commission qui décide du remboursement. Est-ce que le médicament a le mérite le remboursement? Est-ce qu'il doit être remboursé ou pas? Il y a en France environ 20% des médicaments qui ne le sont pas. On viendra aussi là-dessus. Et puis, une fois qu'il a été remboursé, et là, il y a plusieurs types de catégories, je passe sur les détails, il doit recevoir un prix, parce que le médicament n'est pas en prix libre, il est en prix réglementé. Vous avez des petites vignettes avec des prix. Et donc, il y a une autre commission d'État qui donne ces prix. Le processus est assez long, peut prendre 1 ou 2 ans, mais il n'y a pas de médicament qui ne soit pas passé devant au moins les premières étapes. Si le médicament décide de ne pas être remboursé et d'être vendu directement au public, eh bien, il peut, bien sûr, éviter les phases liées au remboursement et au prix. Pas de confusion, puisque je suis sur ces sujets légaux. Il ne faut pas confondre les médicaments et les produits de parapharmacie ou autre. Il y a une manière très simple pour savoir si ce que vous achetez dans une pharmacie est un médicament ou pas. C'est est-ce que c'est accessible? Est-ce que vous pouvez le prendre? Vous n'avez pas le droit de toucher un médicament. C'est-à-dire que la loi interdit au consommateur d'avoir un accès direct au médicament. Donc si vous pouvez toucher, ce n'est pas un médicament. Si vous ne pouvez pas toucher, c'est un médicament. Donc tout ce qui est devant le comptoir, par définition, ne peut pas être un médicament. Seul le pharmacien a le droit de prendre une boîte et vous la donner en fonction de la prescription du médecin ou en fonction de l'avis du pharmacien, si vous le lui demandez. En tout cas, le critère est un critère imparable et qui marche en France du moins, puisque en Angleterre et aux États-Unis, les choses sont beaucoup plus complexes et les patients ont le droit d'avoir et de choisir, un peu comme un supermarché, eux-mêmes leurs médicaments. J'insiste un petit peu sur ces aspects légaux parce que dans le monde du médicament, ils sont omniprésents. C'est-à-dire que la mise sur le marché est réglementée, le remboursement est réglementé, le prix est réglementé, la commercialisation est réglementée, la publicité est réglementée. Par exemple, la publicité est interdite au public. Il est interdit de faire la publicité, vous ne voyez pas de publicité pour les médicaments, sauf certains qui sont autorisés, mais c'est un cas d'exception. Ils sont autorisés à faire de la publicité parce qu'ils ne sont pas remboursés par la sécurité sociale, donc ce n'est pas très dangereux pour le déficit de la Sécu. Mais en principe, si vous voulez, toute cette vie est une vie qui est, cette vie apparente, cette vie commerciale, qui est une vie qui est extraordinairement réglementée. Je pense qu'il n'y a pas de secteur, à part peut-être les armes, où il y a autant de réglementation. Avant la commercialisation, il y a tout un processus qui est aussi tout à fait intéressant à regarder et qui, du point de vue économique et du point de vue industriel, alors pour rentrer un petit peu dans les sujets d'entreprise, est important. C'est, disons, comment naît un médicament et le processus qui va de l'invention à la commercialisation et puis un petit peu après. Tout ceci, encore une fois, n'est pas libre. Tout ceci est contraint. Tout ceci est réglementé. C'est-à-dire qu'on ne peut pas inventer un médicament comme ça. C'est-à-dire qu'il faut se rentrer dans ce moule, qui est un moule unique, qui est un moule qui s'applique à tous les pays du monde développés et qui a été codifié progressivement au cours des années 60 et des années 70, notamment par la FDA, la Federal Drug and Food Administration, sur laquelle nous reviendrons aussi dans un instant. Ce processus de recherche et développement comporte un certain nombre de phases. D'abord la recherche, qui est une phase en laboratoire, autour de l'éprouvette, de plus en plus par ordinateur. De plus en plus, on ne fait pas exister les molécules. C'est-à-dire qu'on les recherche et on étudie leurs propriétés théoriques avec des logiciels d'évaluation. C'est-à-dire que vous avez des logiciels qui simulent la chimie, c'est-à-dire qui forment des molécules virtuelles qui n'existeront jamais et qui étudient la connexion de ces molécules avec des récepteurs physiologiques sans faire exister la molécule. Et on peut aller très loin dans l'étude des propriétés pharmacologiques des produits de manière purement virtuelle, avec des logiciels et des outils extraordinaires développés dans les 10 dernières années et qui ont changé un petit peu les processus de recherche. Un pharmacologue est autant un chimiste ou un biologiste qu'un informaticien aujourd'hui. Très tôt, dès qu'on a une idée, on la brevette. Et le dépôt du brevet est un élément fondamental, et la protection du brevet sera après l'obsession du fabricant tout au long des 20 années que vont durer le brevet. Un brevet expire, d'après les règles du commerce international, les règles de l'Uruguay Round, ou du Round de Marrakech, les choses ont été standardisées, et c'est au bout de 20 ans après le dépôt que la molécule peut être copiée. Pendant ce temps-là, elle va être développée. C'est-à-dire que le médicament qui est virtuel, qui peut être ensuite à un moment synthétisé, qui va être produit, arrive pendant plusieurs années sans avoir jamais été donné à qui que ce soit. Et l'administration du produit le fait rentrer dans une phase qu'on appelle le développement, qui est très différente de la phase de recherche, qui est une phase beaucoup plus large, beaucoup plus industrielle, où il y a beaucoup plus de grosses entreprises, alors que les entreprises de recherche sont souvent ces petites start-up très innovantes que vous connaissez et très liées au milieu universitaire. Le développement, c'est l'essai, c'est essayer un médicament. Ça prend très longtemps et on l'essaye d'abord sur une phase qu'on appelle préclinique et ensuite sur des phases cliniques. La phase préclinique consiste à tester le produit essentiellement chez l'animal. Donc on a des modèles animaux de différentes natures en fonction de la pathologie. Il y a des modèles animaux plus ou moins pertinents et ces modèles animaux sont utilisés de manière à tester l'efficacité du produit. Alors bon, c'est des processus que n'aiment pas beaucoup les défenseurs des animaux, mais indispensables. On prend des souris, on leur greffe une tumeur, on les traite pour voir si la tumeur disparaît ou pas. Et puis on a un groupe de souris non traitées à côté et on voit si les souris traitées meurent plus vite ou moins vite ou pareil que les souris non traitées. Et après ce processus indispensable, arrive la phase intéressante qui est le passage à l'homme. Et le passage à l'homme fait l'objet d'une déclaration très solennelle, fait l'objet d'une déclaration auprès des autorités et d'autorisation très, très précise. On ne passe pas comme ça, on ne donne pas à l'homme un produit nouveau sans autorisation administrative. Toutes les personnes qui travaillent dans ce secteur connaissent la succession des phases, phase 1, phase 2, phase 3, qui sont quelque chose qui est le quotidien des fabricants de médicaments. La phase 1 est une phase qui va vous surprendre un petit peu, c'est ce qu'on appelle l'essai sur le volontaire sain. C'est-à-dire que ce sont des gens pas malades, en petit nombre, une dizaine, une quinzaine, auxquels on donne le médicament. Ils sont volontaires, ils sont rémunérés, ils sont payés pour ça, ils sont hospitalisés, au cas où il arriverait quelque chose, comme le médicament n'a jamais été donné à personne. Ils sont en bonne santé, ils sont jeunes, donc en principe, ils ont peu de risques, mais et ce sont les premiers à être les premiers cobayes du médicament. Si ça se passe bien, si ça se passe mal, on arrête tout. Ça se passe en général pas trop mal, d'abord parce qu'on connaît quand même un peu la molécule, et ensuite parce que ces gens sont bien surveillés, donc s'il y a le moindre signe, on arrête tout de suite. Si ça se passe bien, on passe à la phase 2, qui est la première fois où le médicament, mais ça fait longtemps qu'il est né déjà, hein, ça fait 5 ou 6 ans qu'il existe, et c'est la première fois qu'il va être donné à un malade, à quelqu'un qui est malade, donc qui a la pathologie que le médicament est censé traiter. Mais ils seront peu nombreux, ouais, c'est pas génial au point de vue... Ils seront relativement peu nombreux et on va essayer de faire ce que les Américains appellent du dose ranging, c'est-à-dire voir un petit peu si ça marche à 10 mg, 20 mg, 30 mg, 40 mg. On essaiera de trouver les bons compromis. On regardera les effets secondaires. Est-ce que les patients se mettent à trembler? Est-ce qu'ils vomissent? Est-ce qu'ils ont des vertiges? Est-ce qu'ils ont toutes sortes d'effets secondaires dus au médicament? Si ça se passe encore bien, c'est-à-dire s'il n'y en a pas trop, il y en aura forcément, hein, le produit est actif, mais si ça se passe encore bien, eh bien on passe à la phase 3, qui est le cœur du développement clinique. C'est des grands essais, là, sur des centaines de patients, voire des milliers de patients, des malades, sur lesquels on teste le médicament, et ça peut durer le temps qu'il faut, mais dans certaines pathologies, un an, deux ans, trois ans, plus l'analyse des données, tout ça prend encore un temps très long. Finalement, peut-être 10 ans. En général, on dit que ça prend 10 ans. 10 à 12 ans, après la découverte de la molécule, on a un produit qui a été testé, dont on pense qu'il est efficace, qu'on a testé sur quelques centaines de patients, sur lequel on a donc des données, et c'est ce produit qu'on va soumettre à la procédure d'enregistrement. Et la procédure va elle-même durer encore un an ou deux, donc ça va faire 13 ou 14 ans après son invention que le produit va arriver sur le marché, et la procédure par les agences d'enregistrement va consister à revoir tout ça et à bien vérifier que toutes les données accumulées au cours de ces années sont correctes et valent la peine que la collectivité prenne le risque d'administrer le médicament à ses patients. Le médicament est enregistré et cette fois, là, il change d'étape, il passe dans le monde de la commercialisation. Les premiers jours de la commercialisation d'un nouveau médicament, c'est une aventure intense, parce que d'emblée, surtout d'une nouvelle molécule qui est réellement innovante, parce que d'emblée, on passe de quelques milliers de patients à quelques centaines de milliers de patients, voire quelques millions de patients. Et donc, des effets très rares. Votre truc, il est bien, mais il tombe. Hein. Des effets très rares. Des effets qui existent que sur un patient sur 10 000 ou sur 100 000, eh bien, ne se révéleront que à cette occasion-là. Et il arrive environ 5 à 6 fois par an en France que l'agence du médicament fasse ce qu'elle appelle une procédure d'urgence, c'est-à-dire envoie des flashs à tous les médecins, les pharmaciens et les industriels pour arrêter un médicament parce qu'il a été révélé un événement grave, c'est-à-dire qu'un patient auquel on a donné le produit nouveau a fait un accident Et ça peut conduire à l'arrêt pur et simple du médicament. Je connais un exemple très récent d'un médicament qui a été arrêté, donc tout ça a été perdu, on a tout fait ça en vain, tout simplement parce que produit a révélé de la photosensibilisation. C'est-à-dire que les patients qui allaient au soleil devenaient tout rouges. Et on s'est aperçu qu'on n'avait jamais, dans tout le processus de développement, on avait oublié de sortir un patient pour aller voir s'il résistait au soleil. Ça s'était fait dans les hôpitaux et finalement, la photosensibilisation du patient, c'est l'antibiotique, a tué le produit n'existe plus. Et après la commercialisation, le produit n'est pas abandonné et vous avez ce qu'on appelle la pharmacovigilance, c'est-à-dire qu'il y a des données qui continuent à être relevées. Chaque année en France, il y a environ 20 000 observations qui remontent, 20 000 observations d'effets de médicaments, dont 7 à 8 000 graves. Il y a environ 7 à 8 000 personnes qui ont une intoxication grave à la suite d'un médicament. Il y a environ 100 à 200 enquêtes qui sont conduites par l'agence du médicament. Et puis, je vous le disais, 3, 4 à 5 retraits de médicaments à la suite de ces enquêtes. Ces chiffres ont tendance à augmenter dans le temps. Pourquoi ? Eh bien, peut-être parce que les molécules modernes sont beaucoup plus actives, beaucoup plus puissantes et ont un effet biologique plus puissant. Aussi parce que la société et les Français, c'est bien, sont de plus sensibles au thème de la sécurité sanitaire et de plus en plus, ils font attention à ce genre de choses. Je voudrais revenir un instant sur l'essai clinique, l'essai de phase 3. Parce que c'est un moment important et c'est surtout, je crois, c'est là aussi, dans la logique qui est la mienne de l'impact social du médicament, je crois que le médicament a un peu changé la manière dont on perçoit le savoir médical. C'est-à-dire que la médecine a été changée non pas simplement dans ses procédures, dans ses procédés et dans ses actions, mais aussi dans ses modèles intellectuels, dans son modèle mental. Comment teste-t-on un médicament ? On a un modèle scientifique épistémologique qui s'appelle l'essai randomisé contrôlé en double aveugle. C'est quelque chose qui est extraordinairement codifié et ça a été inventé en 62. Il y a une date assez précise. Pourquoi 62 ? Eh bien parce que c'est la fameuse affaire de la thalidomide. Peut-être certains d'entre vous ont souvenir de cette histoire horrible, qui est un médicament, un sédatif, qui avait été donné, qui avait été mis sur le marché dans plusieurs pays, en Angleterre, en Allemagne, aux États-Unis, pas en France, en Australie, enfin dans plusieurs pays, et qui avait eu des effets sur les femmes enceintes terribles, puisque les enfants naissaient en général sans membres, c'est-à-dire que les mains et les pieds étaient rattachés directement au tronc. Donc en 62, et ces gens ne mouraient pas, d'ailleurs ils existent encore, et il y a de par le monde une association des enfants de la thalidomide. Et ça avait fait un scandale épouvantable. Et le président Kennedy, qui était président des États-Unis, avait, à la suite de ce scandale, fait un rapport montrant que les médicaments étaient beaucoup trop, n'étaient pas assez évalués et n'étaient pas assez sérieusement étudiés. Et donc, à partir de ce jour-là, la FDA a été renforcée et on a exigé de tous les médicaments qu'ils passent à travers ce type d'essai assez rigoureux. La France s'y est mise un peu tardivement. 5, une petite dizaine d'années après, et aujourd'hui, elle a réévalué tous les médicaments existants et elle vient de terminer. Aujourd'hui, en 1999, l'année dernière, la réévaluation de tout le stock, donc il a fallu presque 30 ans pour que les normes de sécurité couvrent l'intégralité de la consommation pharmaceutique. On peut penser que c'est un peu trop. Un essai de ce type, c'est un essai comparatif, donc on compare le produit à un placebo ou un médicament de référence. Un placebo, c'est pas pareil que l'effet placebo. Tout médicament a un effet placebo. Un placebo, c'est un médicament qui n'a que ça, qui est inerte, qui n'a pas d'autre effet que l'effet placebo. C'est-à-dire, c'est rien. C'est de l'amidon, du glucose, quelque chose, une substance inerte. On tire au sort les patients, donc les patients sont tirés au sort. Donc, quand vous rentrez dans un essai, vous ne savez pas ce que vous avez. Vous prenez une pilule, vous ne savez pas ce qu'il y a dedans. Vous tirez au sort, soit vous aurez le produit actif, soit vous aurez le placebo. Donc, il y a des gens dans les essais qui ne sont pas traités. On ne le sait pas. Ils sont en double aveugle, c'est-à-dire que ils ne savent pas ce qu'ils prennent et le médecin qui leur donne le médicament ne sait pas ce qu'il donne. Pourquoi ? C'est pour éviter des effets de suggestion, c'est pour que le médicament et la référence soient réellement à égalité et qu'il n'y ait pas, même sans s'en apercevoir, des actes, des propos, des paroles qui stimulent en quelque sorte l'activité du produit. Il y a certains patients qui sont inclus, donc qui sont exclus. On précise à qui on le donne, à qui on ne le donne pas. On prend, on élimine. On élimine qui ? On élimine les personnes trop âgées, parce que c'est trop compliqué. On ne saura pas si elles vont mieux, si elles vont plus mal, si c'est à cause du médicament ou d'autres facteurs. Donc on prend en général des gens assez jeunes. On prend des gens qui... Il y a aussi une certaine exclusion un peu culturelle. On prend des gens qui parlent français ou anglais, sont les cas, parce que c'est un peu compliqué. Il faut leur expliquer le protocole. Il faut qu'ils signent un tas de trucs. Donc il y a une sélection assez précise des produits. On détermine les effectifs. S'il nous faut 150 patients, on prend 150 patients et pas un de plus. Comme la moitié ne seront pas traités, on évite d'en prendre trop. On prend exactement ce qu'il faut. Et on fait des calculs ensuite savants, ce qu'on appelle l'inférence statistique, pour savoir si dans la branche traitée, s'il apparaît que la branche traitée, les patients vont mieux que dans la branche placebo, dans la branche de référence, il faut répondre encore à une question. Est-ce que c'est par hasard ou est-ce que c'est vraiment à cause du fait du médicament ? Parce qu'il pourrait se faire qu'en prenant deux groupes comme ça au hasard, il se trouve que les gens aillent mieux dans un groupe plutôt que dans un autre. Donc on calcule ce hasard et il y a une règle très simple qui dit qu'on doit être à peu près sûr, à 95%, que ce n'est pas l'effet du hasard. Donc on est à peu près sûr que si les gens vont bien dans le groupe traité, à 95%, et ce chiffre a été établi par une conférence internationale sur le sujet, à 95%, on est sûr que le médicament y est pour quelque chose, mais pas à 100%. Donc il y a toujours un petit... C'est toujours un savoir statistique. Alors pourquoi ceci est intéressant ? Eh bien parce que, pour deux raisons. D'abord parce que ça a beaucoup fait parler et réfléchir sur le plan éthique. Est-il éthique de faire entrer des gens dans ce type d'essai ? Est-il éthique de dire à des gens qui sont malades, voilà un produit, et peut-être que c'est de l'amidon ? Alors que la personne peut avoir une pathologie réellement qui le fait souffrir et qui peut éventuellement mettre sa vie en danger. Alors il y a eu beaucoup de réflexions sur les limites éthiques de ce type de modèle. La réponse est oui, à condition que réellement il y ait un apport scientifique. C'est-à-dire que réellement, si on ne fait pas l'essai, on ne saura jamais si le médicament est efficace ou pas. Dès lors qu'on a un soupçon que le médicament appartient à une famille déjà connue ou que, disons, que la connaissance peut être établie autrement, on va hésiter à entreprendre ce type d'essai. Ou alors, au lieu de donner un placebo, on donnera un médicament de référence. On va se comparer à un autre médicament. Mais on va éviter de donner un placebo. Par exemple, on ne fera pas d'essai contre placebo dans le sida ou dans le cancer. Parce que ce serait, bon. Mais on comparera deux médicaments dont l'un est supposé être plus actif que l'autre. Donc, cette espèce de réflexion sur les limites de l'expérimentation biologique. Et puis on a voulu protéger le patient, et en France particulièrement. La France a été très pionnière dans ces domaines de protection des personnes, à travers une célèbre loi, dite loi Hurier, du nom du sénateur Hurier, loi du 20 décembre 88, c'est beaucoup plus ancien que ça. Et cette loi donne un certain nombre de précautions, notamment des comités. Il y a des comités qui doivent valider l'essai, donner un avis sur le fait que l'essai soit nécessaire ou pas. Et puis, les patients doivent signer un consentement éclairé. C'est-à-dire, ils doivent dire oui, j'ai compris que je suis dans un essai, j'ai compris ce que je dois faire, j'ai compris les risques que je prends et je suis d'accord pour le faire. Et donc, c'est ce consentement éclairé qui est à la base aujourd'hui d'ailleurs des relations médecin-malade. C'est-à-dire qu'on n'a pas le droit de donner un traitement en principe s'il n'y a pas ce type de relation médecin-malade. C'est pour ça que c'est intéressant parce que ça donne une forme à ça. Ce qui est encore plus intéressant, me semble-t-il, mais là, je vais rentrer dans des sujets un peu techniques, donc je vais à peine les affleurer, c'est que ce modèle d'expérimentation du médicament a donné naissance à un modèle de comportement du médecin que les anglo-saxons appellent le evidence-based medicine, c'est-à-dire la médecine fondée sur les preuves. Traditionnellement, la médecine n'est pas fondée sur les preuves. Elle n'était pas fondée sur les preuves. Elle est fondée sur quoi ? Elle est fondée sur l'expérience clinique, sur l'intuition, sur le sens clinique, sur le savoir, sur l'autorité du médecin, sur sa science, mais pas sur des preuves objectives recueillies dans des méthodologies très froides et très distanciées. Et donc, le mouvement très fort qui saisit en ce moment la médecine, très complexe et très controversé. Tout le monde n'est pas d'accord parce qu'un tas de gens continuent à dire que la médecine est plus un art qu'une science et doit se garder de, de, d'appliquer ces protocoles et ces méthodes extraordinairement rigoureuses, mais il n'empêche qu'on voit monter partout dans le monde occidental la prédominance de ce modèle de relations thérapeutiques au jour le jour. Hein. Et le programme, c'est transférer les résultats de la recherche, les résultats et presque la méthode de la recherche clinique dans la pratique quotidienne. Est-ce que c'est du scientisme? Est-ce que c'est de la rigueur et de la qualité des soins? Il y a tout un débat qui traverse le monde médical et en ce moment, une partie de mon livre est consacrée à, enfin, de mon dernier livre est consacré à ce débat. Et c'est intéressant parce que le médicament, c'est le médicament qui a porté ça. C'est-à-dire que le médicament, c'est le triomphe du médicament, si vous voulez, c'est plus que celui d'un moyen thérapeutique, c'est aussi celui d'un modèle intellectuel, d'un modèle scientifique, d'un modèle épistémologique et presque même d'un modèle éthique. Hein. Et le médicament, c'est plus qu'un moyen thérapeutique. Hein. Il faut bien être conscient de ça. C'est en tout cas le message que j'aimerais délivrer. J'en viens à des sujets plus économiques, la consommation. Les Français consomment environ pour 2000 francs par an et par Français de médicaments. Nous consacrons 1,6% de notre produit intérieur brut à la consommation de médicaments. La France est là, est en blanc, 1,6%. Vous ne le voyez pas parce que l'appareil n'est pas très précis, mais c'est marqué 1,6. Et c'est plutôt dans les pays fort consommateurs. Nous sommes des gens qui dépensons beaucoup en médicaments, un peu moins que les Américains, mais beaucoup plus que même deux fois ou trois fois plus que des pays comme la Norvège, l'Irlande ou le Danemark ou la Suisse, qui ne sont pas spécifiquement des pays sous-développés. Donc il y a un problème qu'on va aborder. De quoi, qu'est-ce que nous consommons? Eh bien, nous mangeons beaucoup de médicaments de cardiovasculaires, des médicaments pour l'appareil respiratoire, ça on ne les mange pas nécessairement, on les inhale aussi un petit peu, l'appareil digestif, tout ce qui est système nerveux central, c'est les psychotropes, tranquillisants, antidépresseurs, donc 10% de la consommation, les anti-infections, antibiotiques, psychotropes, autres que là-dedans, et puis appareil locomoteur, problème de rhumatisme, etc. Donc, la France donc, est un pays un peu curieux, comme vous le... Alors, d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que le monde du médicament est tout petit. Hein, tout petit. Les mondes du médicament sont réduits aux États-Unis, au Canada, à l'Europe de l'Ouest, et pas à l'Europe de l'Est, et au Japon. Et pas à la Corée, etc. Donc ça se réduit à un tout petit monde qui représente un peu moins de 20% de la population et qui consomme plus de 80% des médicaments. C'est-à-dire que le monde entier ne connaît pas le médicament ou ne connaît que des formes soit de contrebande, soit des médicaments périmés, soit enfin, il y a un réel problème, si vous voulez, d'accès aux médicaments pour 80% des gens sur cette planète. L'OMS essaie de promouvoir la consommation pharmaceutique. Elle a une liste de médicaments dits essentiels, 200 molécules de base, qu'elle essaye de fournir à bas prix aux pays du tiers-monde. Mais il n'en reste pas moins que la consommation pharmaceutique est extraordinairement concentrée. C'est-à-dire qu'on peut avoir en France l'impression qu'on mange tout le temps des médicaments. C'est une impression extraordinairement centrée sur les pays développés. Le monde est exactement dans la situation de pénurie de médicaments, dans la situation inverse. Si on prend, si vous voulez, le cas d'un malade du sida qui est sous trithérapie, c'est-à-dire qui a ce qu'on appelle une antiprotéase et deux analogues nucléosidiques, eh bien, sa consommation de médicaments revient environ à entre 5 et 6 000 francs par patient et par mois. Et 5 à 6 000 francs, c'est environ le double du PIB par tête de Haïti. Hein, c'est-à-dire que donc on est à peu près loin de, disons, en termes économiques. Alors, on dit souvent que c'est le prix du médicament qui empêche la consommation dans le tiers-monde, mais il y a des exemples contraires. Par exemple, la lèpre est un fléau qui existe, alors qu'il y a des médicaments très efficaces qui coûtent rien du tout, dont les génériques existent depuis longtemps, qui sont quasiment gratuits, et ce n'est pas pour autant que les patients ont accès à ces médicaments. C'est loin d'être un simple problème de prix pour avoir des médicaments. Encore faut-il que les patients soient dépistés, traités, qu'ils soient prescrits, qu'ils soient dispensés, que les patients observent leur traitement. Donc c'est toute la structure sociale qui est en jeu. Le médicament, c'est un bien de luxe. Hein, c'est un peu choquant de dire ça, mais c'est vrai. C'est un bien comme le luxe ou le loisir. Plus on est riche, plus on en consomme. et ce n'est pas du tout un bien de première nécessité. Les pays pauvres n'ont pas de médicaments, les pays riches en ont beaucoup. Donc, exactement comme le loisir ou comme d'autres types de biens. Cela étant, il y a des divergences entre les pays occidentaux. L'Allemagne, la France, l'Italie et le Royaume-Uni ont des dépenses à peu près similaires, sauf les Anglais. Les Anglais vivent dans un système un peu pénurique, un système un petit peu très contraint. On prescrit peu de médicaments. Le médecin anglais est très encadré par son système de santé national, le National Health Service. Et donc, on prescrit peu, alors que par contre, dans les autres pays, les dépenses sont relativement équivalentes. Par contre, les Français, la taille de l'ordonnance en France, on sait, c'est 3 lignes en moyenne sur ordonnance, environ 6 boîtes par ordonnance le coût moyen d'une ordonnance, 250 francs, 300 francs, et on connaît ça très bien, et on sait que les Français sont des gros consommateurs. En France, on consomme chaque année 3 milliards de boîtes de médicaments. Comme on est 60 millions, ça doit faire, et ça fait 50 boîtes par personne et par an, c'est-à-dire que ça veut dire une boîte par semaine et par Français, c'est-à-dire que chaque Français en gros mange une boîte de médicaments par semaine. Alors, comme il y en a qui n'en mangent pas, il y en a qui en mangent beaucoup. Comme on mange beaucoup de boîtes, si on n'est pas plus cher que les autres, c'est parce qu'on les paye pas cher. On en mange beaucoup, mais on les paye pas cher. Si on prend les prix de l'industrie, par exemple les prix des produits, et avec la France une base 100, bon, l'Italie est un peu moins chère que nous, la Belgique, l'Allemagne, 30%, 15%. À part les pays du Sud, France, Italie, je mets la France dans le groupe des pays du Sud. Les pays du Sud sont des produits où on mange beaucoup de médicaments et on les paye pas cher. Les pays du Nord sont des pays où on mange peu de médicaments et on les paye beaucoup plus cher, 30 à 40% plus cher. Est-ce qu'il y a une relation entre les deux? Est-ce que c'est parce qu'ils sont pas chers qu'on en consomme beaucoup? Je ne suis pas sûr. Je ne suis pas sûr parce que les pays du Nord sont aussi des pays où les médicaments sont gratuits. C'est-à-dire qu'on ne les paye pas du tout. Donc paradoxalement, si vous voulez, le prix n'est pas le prix pour le consommateur, puisque nous avons encore un ticket modérateur relativement élevé sur le médicament, alors que les pays nordiques, et l'Angleterre par exemple, le médicament est pris à 100%. Alors comment s'explique le fait que nous mangeons 50 boîtes et que les autres en mangent la moitié? J'ai une courbe quelque part, voilà, qui est impressionnante. Qui montre un peu la situation de la France. La France avec ses nombres de boîtes, donc la France 50, puis tous les autres derrière, ça c'est le prix et la quantité, donc ça montre que plus les prix sont bas, plus on en consomme, plus les prix sont élevés, moins on en consomme. Mais je vous dis que c'est le prix de la boîte, ce n'est pas le prix payé par le consommateur, parce que là, c'est gratuit, hein, ce qui est un petit peu interdit d'interpréter cette courbe comme une courbe de demande d'un économiste classique. Donc pourquoi sommes-nous les champions du monde incontestés, toute catégorie, de la consommation de médicaments? D'abord, ce n'est pas vrai toute catégorie. Justement, on n'est pas dans toutes les catégories, on est particulièrement concentré sur certaines. Nous sommes extraordinairement friands d'antibiotiques, par exemple, comme les Italiens. On consomme beaucoup de médicaments psychotropes, tranquillisants, antidépresseurs, mais les Anglais consomment beaucoup de médicaments contre les ulcères, les Allemands beaucoup de médicaments cardiaques. Il y a des habitudes nationales un peu curieuses qui font que, disons, les normes de consommation sont des populations qu'on peut juger relativement identiques en niveau de vie et en caractéristiques de santé, eh bien elles ont des normes de consommation différentes. Par exemple, les Anglais ne prennent que du paracétamol et pas d'aspirine, les Allemands que l'aspirine et pas du paracétamol, et nous on prend les deux à la fois, 50-50. Bon, encore une fois, pour des raisons qui restent un petit peu mystérieuses. On a dit pourquoi les Français, on a dit parce que les prix sont bas, parce que les laboratoires font beaucoup de publicité auprès des médecins et la visite médicale est une pression très forte auprès des médecins pour qu'ils prescrivent. On a dit que la médecine libérale, le fait que les médecins, qu'on puisse choisir son médecin, qu'on puisse aller voir le médecin qu'on veut, qu'on ne soit pas contraint comme dans le système anglais par un médecin de famille obligatoire, bien tout ça joue en faveur, pousse en quelque sorte à la consommation consultation, le médecin veut garder son client, lui prescrit des ordonnances pour que les clients soient contents, la sécu paye, les produits sont pas chers, enfin bref, une espèce de logique qui s'est un petit peu mis en place, et je crois que c'est assez vrai, et qu'il y a comme ça une espèce de logique économique un peu globale, un système qui explique un petit peu cette relativement, enfin, c'est même très, très, très forte consommation. Il faut voir aussi que, si vous voulez, la France est en train de, sur le plan de la pharmacie ou du médicament, de passer un petit peu de ce que j'ai appelé l'ancienne à la nouvelle économie. Alors, il ne s'agit pas, bien sûr, d'ancienne ou nouvelle économie à la Internet, encore que, on peut voir tout à l'heure, on pourra dire un mot sur Internet et le médicament. Je pense qu'Internet va complètement bouleverser le monde du médicament à très, très brève échéance. Mais, si vous voulez, nous avions une ancienne économie nationale avec des laboratoires français, avec des produits anciens, relativement souvent des extraits de plantes, des produits très symptomatiques, hein, qui touchent plutôt les symptômes, avec un marché intérieur très protégé. Ces laboratoires avaient d'excellentes relations avec les prescripteurs, de bons réseaux commerciaux, les connaissaient bien, des prix bas, des forts volumes et une kyrielle d'entreprises qui se faisait concurrence auprès du prescripteur. Ce modèle existe encore un petit peu, il est moribond, mais il a été dominé jusqu'il y a 5-6 ans, pas plus. Et ce sont ces entreprises-là qui étaient un petit peu les maîtresses du marché français, et elles étaient très spécifiques, elles n'étaient fortes qu'en France, elles n'étaient pas fortes à l'étranger, mais à l'étranger, les firmes étrangères étaient faibles en France, et elles avaient, toutes ces firmes-là, plus de la moitié du marché. Aujourd'hui, elles ont perdu cette prédominance. Ce que je vais appeler la nouvelle économie du médicament est dominante. Elle a passé il y a 2-3 ans le seuil des 50% du marché. Et cette nouvelle économie, entre guillemets, est très différente. Elle est globale, elle est mondiale. Ce sont des groupes internationaux, essentiellement américains, on va le voir dans un instant. Les produits ont un fort contenu en recherche et développement. C'est une économie concurrentielle, avec des prix élevés, les prix sont très chers, et les volumes sont ciblés sur des indications médicales très précises, avec une très forte concentration des firmes, et vous entendez très souvent des rapprochements dans les géants de la pharmacie. Donc on est dans une logique qui n'a plus rien à voir avec la précédente, et notre vieille consommation tranquille, subventionnée, a beaucoup de mal à intégrer, disons, ce modèle un peu nouveau qu'on voit arriver. Ce modèle est peut-être matérialisé par le recul de l'Europe. C'est-à-dire que cette nouvelle économie avec des produits chers et à fort contenu technique viennent essentiellement des États-Unis. Les États-Unis écrasent un petit peu le monde de la pharmacie. Pourquoi ? Eh bien, là encore, les réponses sont diverses. Le goût du risque, les conditions matérielles faites aux chercheurs en salaire, stock option, capacité à s'enrichir. Hein, les chercheurs cherchent aussi l'enrichissement personnel. Les États-Unis leur offre ces possibilités, un accès facile au capital risque, on peut financer assez facilement des entreprises innovantes, la langue de la recherche et la langue quotidienne, ce sont les mêmes, donc on peut facilement s'acclimater, et c'est vrai qu'il y a un très fort drainage des activités pharmacologiques de recherche aux États-Unis, y compris les entreprises françaises localisent leurs laboratoires avec des... aux États-Unis, pour un chercheur, un brillant chercheur norvégien ou suédois, c'est plus facile d'aller vivre aux États-Unis qu'en France ou en Italie. Donc là, il y a cette espèce de prédominance qui n'a jamais été aussi forte et qui sera d'autant plus forte que l'innovation et que le phénomène récent des biotechnologies a plutôt accentué. C'est-à-dire que non seulement on ne l'a pas compensé, mais on a plutôt accentué cette différence. Les firmes européennes étant, encore une fois, très tentées d'y aller. Le dernier point qu'on abordera, parce que l'heure passe, c'est le problème de la politique des dépenses de santé et de la maîtrise des dépenses de santé et de la régulation des dépenses de médicaments. Les médicaments, c'est environ 14% des dépenses maladie du régime général. Le médicament, comme vous le savez, est remboursé, pas beaucoup, moins qu'ailleurs. Le taux moyen de remboursement sur les médicaments, c'est 58%. Si on prend les médicaments dont on envoie la vignette à la Sécurité sociale, c'est 75%. 44% des médicaments sont remboursés intégralement dans le cadre des maladies prises à 100% par la Sécurité sociale. Donc, une situation assez hétérogène. Il y a des patients qui ne payent rien et d'autres où le ticket modérateur est relativement élevé. Donc, 14% de ces dépenses. Et comme vous le savez, sur une consommation pour le seul régime général qui est de plus de 500 milliards de francs aujourd'hui, et donc tout ceci crée des tensions. Et il y a une politique du médicament qui est menée depuis un certain temps en France. Alors, quel est l'axe de cette politique du médicament ? En deux mots, l'axe traditionnel, c'est les prix. L'axe traditionnel, le moyen d'action, l'outil traditionnel des pouvoirs publics, c'est le contrôle administratif des prix. Je vous l'ai dit il y a un instant, on ne peut pas vendre un médicament à prix libre en France, et les prix sont réglementés, et c'est par ce contrôle des prix que le gouvernement entend maîtriser les dépenses de santé. Ça a été décevant, parce que comme on contrôle les prix mais pas les volumes, eh bien, on peut très bien, la dépense finalement, ce qui est important plus que les prix, ce qui est important, c'est la dépense, et la dépense n'est pas plus faible que ce qu'elle est dans des pays comparables. Donc depuis le début des années 90, la politique du médicament a sensiblement changé, dans un sens beaucoup plus complexe et conventionnel. C'est-à-dire que, d'une part, le gouvernement a essayé de signer des accords avec les firmes, des accords de modération et de planification, de manière à ce que les firmes prennent des engagements de modération en ce qui concerne le prix des innovations. D'autre part, le gouvernement a essayé de stimuler la concurrence en faisant intervenir des nouvelles catégories de médicaments, par exemple le générique, dont on pourrait parler, mais ce serait tout un chapitre, ou bien les produits non remboursés, l'automédication, qui est en France plus faible qu'ailleurs. On a essayé de promouvoir à travers. On a essayé de contrôler le prescripteur. On s'est dit, au fond, on pourrait, plutôt que demander aux patients de payer plus, ne pourrait-on pas demander aux médecins d'être moins prolixes ou prolifiques dans leur comportement de prescription. Et donc, tout un système s'est mis en place de références médicales opposables, d'éducation, on a essayé de moraliser la publicité promotion, il y a une taxe sur la publicité qui a été introduite, donc tout un système, tout un ensemble de mesures pour essayer de diminuer ça, mais qui est un effort qui ne peut être qu'un effort de longue période. Le plan Juppé en 1996 a établi un nouvel étage de la régulation, un taux maximum de dépenses qu'on ne peut pas dépasser, et si les firmes, si là, le marché pharmaceutique, les prescripteurs, vous, les patients, consomment plus de médicaments qu'il n'est autorisé par ce taux, voté par le Parlement tous les ans en novembre, eh bien, les firmes pharmaceutiques qui en bénéficient doivent reverser la différence à l'État, une partie de la différence entre le taux prévu et le taux réalisé. Et en 1999, l'État a récupéré comme ça 1 milliard de francs sur l'industrie pharmaceutique en application de ce mécanisme qui est tout nouveau, qui fonctionne pour la deuxième année consécutive. Et donc tout ça, mais bon, et puis là-dessus, il faut rajouter un élément européen. Nous sommes dans un processus d'européanisation du marché européen, du marché pharmaceutique, je veux dire. C'est-à-dire que les médicaments sont des biens qui sont soumis au principe de libre circulation. Ils peuvent circuler librement. Les médicaments peuvent venir, dès lors qu'ils ont une AMM, ils peuvent venir de n'importe où. Et donc, avec des mouvements de prix qu'on contrôle de moins en moins. Et donc, il y a réellement un enjeu important autour de cette régulation du médicament. Le sentiment qu'on a, c'est que le système actuel n'est pas idéal, qu'il doit évoluer, mais on ne sait pas trop vers où. Quelques questions pour terminer. Quelques questions. Je n'ai pas beaucoup le temps de développer les enjeux des biotech, la génomique, les nouveaux paradigmes technologiques, mais d'autres le font dans le cadre de ces conférences, donc je n'ai pas trop de scrupules. Mais ils vont bouleverser un petit peu l'économie de l'industrie, accentuer la coupure entre les gens qui inventent et les gens qui développent, entre ceux qui trouvent des molécules et ceux qui les essayent et qui les vendent. Ça devient deux mondes séparés, des grosses entreprises d'un côté, des petites start-up de l'autre, avec des relations contractuelles très étroites. Donc un marché qui s'organise de manière très différente de ce qu'elle était. La pharmacothérapeutique, dans son ensemble, est appelée vraisemblablement, à cause de tous ces progrès, à un très grand avenir, à ce point que l'hôpital, il y a même une espèce de balancement entre le médicament et l'hôpital. Certains médicaments vident les hôpitaux et beaucoup de traits de certains médicaments remplacent des interventions chirurgicales. Et donc, le président Clinton ou le candidat démocrate à l'élection présidentielle de novembre, vous savez qu'un des grands enjeux, c'est la protection sociale. Et il disait, peut-être pour flatter l'industrie, qu'un dollar dépensé en médicaments, c'était $3 économisés à l'hôpital. Donc il y a une espèce d'immense basculement qui va poser d'énormes problèmes, des problèmes d'emploi, des problèmes d'aménagement du territoire. Mais il y a des perspectives là, même un peu effrayantes, à un terme relativement rapproché, de 5-10 ans. Le problème de l'avenir du système de régulation économique, qui régule quoi? Est-ce que c'est... Il y a le problème des assureurs privés qui, vous savez, poussent à la porte. Tous les problèmes de notre système de santé sont un petit peu accentués et sous la pression. Et le médicament est très souvent au centre de ces problèmes parce que c'est un bien industriel, parce qu'on peut y faire des gains de productivité, parce que c'est des entreprises privées et marchandes qui le produisent. Et donc, c'est un lieu où les contradictions sont certainement plus fortes et plus tendues qu'ailleurs. L'avenir de l'industrie pharmaceutique française... ou en France, et c'est deux choses différentes, est-ce que l'avenir de l'industrie pharmaceutique de nationalité française, il n'est pas... Les plus grandes firmes ne sont plus vraiment françaises, enfin pas toutes, il y en a une là dont je ne vais pas dire du mal parce que c'est le sponsor de ces journées, qui reste très française, en plus qui a fait une belle fusion, mais le Rhône Poulenc, vous savez, a fusionné avec Eux, c'est avec des laboratoires américains, donc on est dans une économie qui où la notion de nationalité des firmes n'a plus beaucoup de sens. Ce qui a un sens, par contre, c'est le problème de savoir si ces firmes vont rester ici, vont rester en France. Quel est l'enjeu pour notre pays? Il est important, hein, c'est garder une industrie, c'est garder des centres de décision, c'est garder ces emplois de chercheurs et hautement qualifiés, de mise au point de nouveaux médicaments. C'est de continuer à avoir des patients français dans les essais, qu'on puisse avoir très tôt accès à l'innovation, que les essais ne soient pas systématiquement faits aux États-Unis et qu'on ait les molécules 2 ans, 3 ans après. Très récemment, il y a un médicament extraordinaire, produit par le génie génétique, dont la firme américaine a annoncé qu'elle ne le lancerait pas en Europe parce que c'est très compliqué à produire et que comme elle a des quantités relativement limitées, eh bien elle les consacre au marché américain parce qu'elle est américaine et que bon, si elle arrive à augmenter les capacités de production, mais pour l'instant elle le réserve à elle. Et c'est vrai que un des enjeux peut être ce genre de choses. C'est compliqué de faire produire des substances biologiques par des bactéries, on n'en a pas des quantités formidables, et donc il y a réellement un enjeu autour de ces questions. Donc, participation des chercheurs et cliniciens français à la recherche mondiale. La France sera-t-elle une partie, jouera-t-elle une carte dans les biotech pour le futur? Rien n'est moins sûr. Rien n'est moins sûr. Sur la pharmacie de synthèse traditionnelle, les choses, à quelques exceptions près, semblent un peu jouées, et l'avenir des firmes françaises sont plutôt dans de jouer leur partition au sein de grands conglomérats internationaux. Je suis un peu pessimiste, mais il semble que ce soit quand même le cas. Pour les biotechnologies, là encore, les Américains ont une avance. Là où peut-être les choses se développent bien, c'est dans ce qu'on appelle la génomique, c'est-à-dire les produits de génie génétique avec des produits extraordinaires, l'usage de vecteurs viraux pour rentrer dans les cellules, modifier le code génétique des cellules et aboutir à des processus de destruction de cellules, par exemple dans le cancer. Il y a des médicaments qui sont testés comme ça en ce moment, mais il y a réellement un enjeu important sur des biens qui finalement sont des biens stratégiques, sont des biens qui ont, j'espère, vous avoir convaincu, au-delà même du sort du malade, hein, au-delà même de l'apport en termes de quantité de vie et de qualité de vie, qui pour notre société, pour nous tous, ont un impact extraordinaire. Je vous remercie de votre attention.
Des micros circulent dans la salle, si vous voulez poser des questions. Il y en a une là.
Oui, bonjour monsieur. Bonjour. Je suis représentant CFDT. Nous avons soutenu en 1995 le plan Juppé parce que c'était un plan qui avait le mérite de proposer autre chose que le déremboursement, oui, et les hausses de cotisations. Aujourd'hui, on se rend compte qu'on a donc une caisse nationale d'assurance maladie qui est gérée par des partenaires sociaux. Le gouvernement lui fixe donc un budget de fonctionnement et c'est le gouvernement qui fixe également le prix du médicament. C'est ainsi qu'on a pu voir en 1999 augmenter le prix des chimiothérapies de 30% alors que le budget de l'hôpital était très fortement limité. Y a-t-il pas une sorte d'hypocrisie à laisser au gouvernement, dont on connaît les relations avec certains labos que vous avez, notamment Elf, pour ne pas le citer, propriétaire de Sanofi, à laisser le gouvernement fixer le prix des médicaments et à confier à d'autres la gestion d'un budget limité?
Alors, vous allez, au moins, la question est d'emblée, vous allez au sujet politique. Alors, d'abord, c'est vrai, vous avez raison, que la Caisse nationale d'assurance maladie ne gère pas le médicament. C'est-à-dire que les décisions sur les médicaments sont des décisions de l'État. C'est l'État qui donne c'est le ministre qui donne le remboursement, et c'est le ministre qui fixe le prix des médicaments. Comme ce sont les médecins qui prescrivent, la caisse d'assurance maladie, les caisses d'assurance maladie, aussi bien la CNAM que la Mutualité sociale agricole ou la caisse des travailleurs indépendants, n'ont pas grand-chose à faire en matière de médicaments. Alors, vous dites, est-ce une hypocrisie ? Oui et non. Enfin, c'est un problème un peu compliqué de rapport entre l'État et les caisses d'assurance maladie. Là où je suis assez sensible, c'est vrai, je crois que disons que ce problème est posé en France à l'heure actuelle. C'est-à-dire qu'un des problèmes qui est fondamentaux pour notre avenir, pour l'avenir de la protection sociale, on le voit à travers la crise du paritarisme, hein, et la remise en cause du paritarisme récent, c'est les rôles respectifs de l'État et des caisses d'assurance maladie. C'est-à-dire, est-ce que nous allons vers un système de nationalisation de l'assurance maladie? Est-ce que nous allons, ce qui est possible, est-ce que nous allons, par exemple, si les conseils d'administration quittent et si l'État prend directement en main le remboursement des soins de santé, il le fait déjà avec l'hôpital, il le fait avec le médicament, il peut le faire aussi avec les médecins. Est-ce que nous allons vers un système de caisse renouvelée? Mais comment? Là, je crois qu'effectivement, c'est une incertitude importante, les rapports entre les partenaires sociaux au sein des conseils des caisses nationales d'assurance maladie et puis les rapports entre l'État et ses caisses. C'est un des éléments sur lequel il n'est pas du tout simple de faire des prévisions et qui est absolument crucial pour l'avenir de notre protection sociale. Je ne vais pas répondre davantage, mais je crois que c'est... Si, là, par contre, si vous voulez, je ne crois pas qu'il faille raisonner sur le... C'est un sujet que je connais bien, sur le prix, sur la manière dont se donnent les prix des médicaments, de manière entre... En termes de complicité entre l'État et les grandes firmes françaises. Ça a été vrai, mais ça, c'est vraiment des choses qui ont 10 ans, etc. Aujourd'hui, on est dans un système de prix... Pour les prix des produits innovants, et vous faisiez allusion aux chimiothérapies, on est dans des systèmes de prix internationaux. Et le gouvernement français n'a vraiment pas... ni les moyens, ni la volonté. Il essaie de limiter, mais plus par des encadrements budgétaires que par des manipulations de prix. C'est plus l'époque. Ce fut l'époque, ça je vous le conseille très volontiers, ce n'est plus l'époque aujourd'hui.
Bonjour. J'ai deux questions. Je voudrais savoir quelle est la proportion de médicaments qu'on retrouve issus des brevets en fait, qui sont déposés. C'est-à-dire que, par rapport au nombre de brevets, combien on retrouve de médicaments à la fin, enfin, quelle oui. proportion et à quels endroits précisément il y a un écrémage le plus important. Et d'autre part, concernant les médicaments homéopathiques, comment se fait-il qu'ils puissent obtenir des autorisations de mise sur le marché alors qu'à ma connaissance, il n'y a pas d'essais cliniques qui sont effectués sur ces médicaments-là?
Oui, alors là aussi, deux bonnes questions. Sur la première, alors c'est quelque chose qu'on connaît bien, qu'on quantifiait bien. On dit qu'il faut 100 000 molécules essayées, mises au point, synthétisées, hein, qui existent dans l'éprouvette stable, hein, qui peuvent exister et qui ne se dissolvent pas tout de suite. Donc 100 000 molécules stables pour une qui arrive sur le marché. Alors c'était vrai, ce l'est moins, grâce à cause des progrès de ce à quoi je faisais allusion, le drug design, c'est-à-dire que le fait que maintenant on étudie les molécules sur ordinateur, ce qui fait qu'on évite de faire exister des molécules dont on sait qu'elles ont peu de chances de donner des... Donc, si vous voulez, il y a eu des gains de productivité grâce à ces logiciels de chimie tridimensionnelle qui permettent d'évaluer à peu près bien les molécules avant de les faire exister. Donc, c'est plus de 1 à 100 000, mais ça reste quand même de 1 à 10 000 ou 15 000. Et on chute très tôt. On chute très tôt, la courbe est... plus on avance dans la vie, donc je disais que ça veut dire environ 10 ans, 10-12 ans, il arrive qu'on perde une molécule à la fin. Hein, ça arrive. Mais en général, les grosses pertes, si vous voulez, sont faites au début. Il faut savoir aussi que chaque fois qu'on perd une molécule, c'est de l'argent perdu pour les entreprises. Donc, ils évitent ça et ils ont des stratégies de recherche fondées sur l'exploration systématique d'une famille de molécules qu'on connaît, donc par dérivation successive, pour essayer de minimiser le taux d'échec. Mais dans l'économie de l'industrie, le coût de l'échec, c'est certainement un facteur important. Il ne faut pas avoir d'échec, hein, parce que l'échec, c'est aucune ressource, c'est beaucoup de coûts. Hein, donc toutes les stratégies sont organisées autour de ça. Sur l'homéopathie, vous avez raison, les produits homéopathiques sont remboursés, sont même remboursés à 65%. Certains s'en étonnent. C'est vrai que les produits homéopathiques n'ont pas fait l'objet de ces évaluations, hein, en essai, etc. Les médecins homéopathes expliquent ça. Enfin, il y a tout un processus, toute une explication sur lequel on ne peut pas comme ça séparer le médicament du corps global. C'est vrai que qu'on n'est pas dans ce modèle-là, et c'est vrai qu'il y a d'autres raisons, plus idéologiques, plus etc., bon, qui expliquent l'existence. En France, en Allemagne, aux Indes, dans 5 ou 6 pays au monde de l'homéopathie. L'homéopathie n'existe pas du tout, ou très peu, dans le nord de l'Europe. Elle n'existe pas dans la plupart des pays. Il y a quelques terres comme ça d'homéopathie. Vous savez, ça vient de l'Allemagne. L'Allemagne a toujours eu, une fibre homéopathique. La France aussi. Les Indes, beaucoup.
Oui, vous avez parlé de la l'européisation des médicaments.
Oui.
Alors, il me semble que ça pose des problèmes compliqués en raison de disparités entre les pays. Pour simplifier, il semblerait que les pays nordiques, qui ont les plus hauts niveaux de vie, tendent vers la gratuité du médicament, alors que pour la société, les coûts sont élevés. Les pays du Sud, je pense au Portugal, à l'Espagne, à la Grèce, ont des médicaments meilleur marché, mais une médicalisation de la société très inférieure à ce que l'on trouve dans les pays du Nord. Je simplifie. Oui. La France est entre les deux, et c'est très compliqué pour la France. Alors, comment vous voyez l'avenir? Est-ce qu'on va aller vers des solutions minimales, les solutions du Sud, ou au contraire, est-ce qu'on va s'adapter à la gratuité nordique? Évidemment, je simplifie outrance.
Tous les modèles nous poussent vers le Nord. C'est-à-dire que les modèles scientifiques, les normes d'excellence scientifique, les normes reconnues sont plutôt au nord. Et le problème disons, dans l'économie du médicament. C'était un concept qui était très, très élaboré par l'ancien président du comité économique du médicament, la personne qui régit un peu ça, qui donne les prix, et qui voulait faire passer l'économie pharmaceutique française d'une économie de fort volume et de bas prix, faiblement, pas cher, mais mal remboursé. Il voulait faire passer ça à une économie de type beaucoup plus anglo-saxon, avec des produits plus innovants, des prescriptions plus étroites, mieux ciblées, des médecins un peu plus évalués, un peu plus surveillés, un peu plus contraints, ou même contrôlés, et un remboursement meilleur. Et je pense que ça va être long, ça va être difficile, ça va être contradictoire, ça pose beaucoup de problèmes, notamment des problèmes pour les entreprises françaises qui ne sont pas dans cette logique-là, des problèmes d'emploi, enfin, mais que là, c'est si ça existe encore, un peu le sens de l'histoire quand même. Monsieur, quel micro ? Allez-y. Ah bon, vous l'avez donné. Ah, parce que je pensais que vous étiez là.
Oui, bonsoir, monsieur.
Bonsoir.
En cas de non-réussite d'un médicament, c'est-à-dire d'un arrêt d'un médicament, alors qui rembourse, qui rembourse les frais engagés ? Au niveau des industries et au niveau des patients en cas de non-remboursement par la Sécu ?
Je ne suis pas sûr de comprendre bien votre question. S'il s'agit d'un échec
non,
sur...
Non, un échec. C'est en cas d'arrêt d'un médicament, parce qu'il y a eu, justement une succession d'échecs. Constatés.
Avant ou après qu'il soit mis sur le marché ?
Non, après la mise sur le marché.
Ah, bah après, c'est après sur le marché. Le médicament est remboursé par la Sécurité sociale. Et si la personne est malade, elle va à l'hôpital, elle est prise en charge. Il n'y a pas de... Mais le fabricant, il peut arrêter le... Si le fabricant arrête son produit... Il perd tout l'argent, il ne vendra jamais une molécule, donc pour lui, c'est des investissements perdus. Quant au patient, il est remboursé et il est soigné gratuitement. Enfin, mais je crois qu'il n'y a pas de problème spécifique là par rapport à d'autres choses. Oui, monsieur.
Oui, la production des médicaments par les entreprises pharmaceutiques privées obéit à des considérations purement commerciales, mais pas forcément thérapeutiques. Autrement dit, pour les maladies rares, ces entreprises n'investissent pas par souci de rentabilité financière. Que faut-il faire, d'après vous, pour que la recherche dans le domaine du médicament n'ait pas de but essentiellement commercial ?
Alors, deux choses. Il y a deux choses dans votre question, si vous voulez, qui sont déconnectées. Mais je suis d'accord avec les deux. Hein. Vous connectez petit marché et scientifique. Hein. Et ça, il faut bien séparer les deux. Je suis d'accord avec vous que si le marché est petit, les firmes pharmaceutiques n'investissent pas dans ce marché petit. Ça a un nom, c'est ce qu'on appelle les médicaments orphelins ou les maladies orphelines. Il y a une définition, c'est un cas par moins de 2000 habitants, et ce sont des petits marchés, et il y a effectivement, il peut y avoir carence de recherche sur ces domaines. Ça a été longtemps le cas des maladies génétiques, hein, avant le Téléthon. C'était une des raisons qui avait conduit à des collectes de fonds assez larges. Dans ces cas-là, certains pays, les États-Unis, le Japon, la France et maintenant l'Europe, ont adopté des dispositifs qu'on appelle des lois pour les médicaments orphelins, qui donnent des incitations, c'est-à-dire qui donnent des protections et qui peut aboutir à donner des subventions publiques à certains laboratoires, pas tous, qui déposent des programmes et qui s'engagent après hein, à mettre ces programmes en route dans le domaine des maladies orphelines. Donc c'est un vrai problème et auquel il commence à y avoir une ébauche de solutions. Aux États-Unis, ça a même organisé, alors c'est pour ça que votre question, il faut bien... Il y a même eu un marché pour ça, il y a des entreprises très rentables qui se sont spécialisés dans les maladies orphelines. C'est-à-dire plus que l'État donne des financements, eh bien, on va se rechercher spécifiquement sur ces petits marchés, sachant que ça peut devenir aussi rentable qu'un grand marché à cause des subventions d'État. Là où je sais pas où il y a une nuance à faire, c'est que sur les grands marchés, là où il y a de l'argent à gagner parce qu'il y a beaucoup de patients, les grandes entreprises sont très scientifiques. C'est-à-dire que là, l'approche des maladies de cardiovasculaires, etc., par un grand laboratoire, c'est non, au contraire, c'est d'être le plus scientifique possible. Pourquoi ? Parce que si on a réellement une avancée scientifique, on va détenir une situation d'exclusivité ou de monopole, et on sera beaucoup plus dominant. C'est-à-dire que l'idée que le profit est contre la science, c'est exactement l'inverse. C'est exactement l'inverse. Moi, si j'étais un industriel du médicament, et si j'étais une des grandes multinationales, j'essaierais d'élever au maximum les critères de qualité scientifique et de rigueur scientifique. Pourquoi ? Parce que je suis à peu près sûr que ceux qui ont moins de moyens n'y arriveront pas. Et donc, disons, pousser. Et donc, il y a effectivement une espèce de... Et c'est pour ça qu'ils s'attachent, qu'ils subventionnent et qu'ils s'attachent les meilleures équipes de recherche. C'est pour ça qu'ils embauchent meilleures équipes de recherche. Le groupe, un des groupes pharmaceutiques leaders, à l'heure actuelle, le premier mondial, a 4 fois plus de chercheurs que l'INSERM en France. Donc, ayant des moyens énormes, je développe des stratégies scientifiques de très haut niveau, moyennant quoi j'établis une différence entre moi et les autres, et je serai celui qui... Et si je touche, si j'invente la molécule qui guérit miraculeusement, de manière miraculeuse du cancer ou je ne sais pas quelle autre pathologie, eh bien, j'ai gagné ma vie pendant un certain temps de manière... Donc, c'est exactement l'inverse. Hein. Ce qui ne veut pas dire que votre question sur les maladies orphelines n'était pas bonne, hein. Mais je crois que la relation entre intérêt économique et intérêt scientifique n'est pas du tout celle qu'on croit, elle est beaucoup plus complexe et contradictoire.